Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Dans cette édition du 20 octobre 2020, Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Présidentielle américaine, Donald Trump enchaîne les meetings, tandis que Joe Biden n'a pas d'événement public à son agenda ce mardi. Les Guinéens attendent l'annonce des résultats officiels de la présidentielle qui a été régulière selon l'Union africaine et la CEDEAO. Violente manifestation au Nigeria, un couvre-feu a été imposé à Lagos et les forces anti-émeutes ont été déployées dans tout le pays. En République démocratique du Congo, plus de 1000 détenus se sont évadés de la prison de Beni lors d'une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Et juste après le journal, ce sera les sports. On commence par la présidentielle aux États-Unis qui se tiendra le 3 novembre. Donald Trump continue d'enchaîner les meetings tandis que Joe Biden semble moins visible et attend le débat final de jeudi. La commission chargée de l'organiser a annoncé de nouvelles mesures. Le point avec Abdourahman Dia.
Principale décision de la commission, les micros de Donald Trump et Joe Biden seront coupés lorsqu'ils n'auront pas la parole pour éviter la cacophonie qui avait régné lors du premier débat en septembre. Ils auront chacun 2 minutes pour répondre aux questions du modérateur et pendant ce temps, le micro de celui qui n'a pas la parole sera coupé. Une fois que les deux candidats auront utilisé ces 2 minutes, une discussion sera alors possible avec cette fois les 2 micros ouverts. Mais le directeur de campagne de Donald Trump, Bill Stephens, a fustigé cette décision, accusant la commission de partialité, ce qui, selon lui, n'empêchera pas au président de débattre avec Joe Biden jeudi. Sur le terrain, le locataire de la Maison-Blanche poursuit ses rassemblements malgré les critiques qu'il accuse de ne pas respecter les règles de distanciation physique dans ce contexte de pandémie. Il était hier dans l'Arizona.
Nous devons infliger aux démocrates une défaite cuisante le 3 novembre. Et si je ne ressemble pas à un politicien classique de Washington, c'est parce que je ne suis pas un politicien, c'est sûr.
Mais certains républicains étaient sur la route pour lui dire qu'ils allaient voter pour son adversaire.
C'est une pancarte de républicains de l'Arizona pour Biden. Nous sommes des républicains ou anciens républicains qui pensent que Biden serait le meilleur choix, même si nous sommes républicains.
Donald Trump sera ce mardi en Pennsylvanie. L'ancien président Barack Obama sera dans cet état pivot demain mercredi en compagnie de Joe Biden. Le candidat démocrate a augmenté ses dépenses publicitaires tout en limitant ses apparitions publiques. À 2 semaines du scrutin, plus de 28 millions d'Américains ont déjà voté, soit par correspondance ou en personne. Beaucoup s'attendent cette année à un taux de participation record.
La gestion de la pandémie de coronavirus ici aux États-Unis est une question qui pourrait décider de l'issue de l'élection présidentielle. Cette question occupe le devant de la scène dans les débats entre les deux camps rivaux. Un reportage de Brian Paddon de La Voix de l'Amérique, le récit est de John Lyndon.
Lors d'un rassemblement avec des personnes âgées en Floride, le président Donald Trump a de nouveau déclaré que la fin de la pandémie de coronavirus est proche et que le développement d'un vaccin est aussi imminent.
Mon message aux Américains, Seigneur, est un message d'optimisme, de confiance et d'espoir. Votre sacrifice n'a pas été vain. La lumière au bout du tunnel est proche. Nous abordons le virage.
Son rival démocrate Joe Biden continue d'accuser le président de minimiser la pandémie alors que les cas de coronavirus augmentent dans le pays.
Aborder le virage, mon Dieu, il ne disparaît pas, il est à nouveau en hausse et ça empire comme prévu.
La pandémie a causé près de 220 000 morts aux États-Unis selon l'université Johns Hopkins. Elle a occasionné une récession économique et dans une certaine mesure, elle a déplacé les lignes idéologiques traditionnelles qui avaient dominé les élections passées. Les débats sur le libre-échange, l'immigration, les soins de santé, le changement climatique, l'avortement et le contrôle des armes à feu ont tous été relayés à l'arrière-plan par la pandémie. Mark Jones, professeur de sciences politiques à l'Université Rice.
Ils ont été supplantés par le COVID-19. Ils existent toujours, mais comme c'est un nouveau problème qui n'existait pas avant, c'est devenu l'un des principaux problèmes pour définir les positions des candidats et comment les gens votent.
La réponse de l'administration Trump à la pandémie est devenue une question partisane. Les républicains s'opposent à des cantonnements stricts pour contenir le virus et mettre l'accent sur les droits de l'individu en ce qui concerne le port du masque et la distance sociale. Matt Terrill, stratège de la Firehouse Strategies, un think tank républicain.
Qu'il s'agisse des discussions autour des masques ou sur le niveau auquel le gouvernement devrait ou ne devrait pas être impliqué dans la sécurité publique ou dans d'autres éléments de notre vie, nous voyons cela se produire maintenant.
En revanche, Biden et les démocrates exhortent à la responsabilité collective pour réduire le taux d'infection et permettre la reprise des activités commerciales normales. Avec une avance dans les sondages, Biden tente de faire de l'élection présidentielle un référendum sur la gestion de la pandémie par Trump. De l'autre côté, la campagne Trump met en avant la robuste économie américaine avant le COVID-19 et promet une reprise rapide à la fin de la pandémie.
Les missions d'observation de l'Union africaine et de la CDAO ont estimé que la présidentielle en Guinée s'est déroulée de manière régulière, alors que le pays attend l'annonce des résultats officiels. Le point avec Zakaria Camara.
La Cour a agi, selon elle, en application des dispositions de l'article 85 du Code électoral. Ainsi, chaque parti politique à la présidentielle aura droit à une photocopie du procès-verbal de dépouillement des résultats provisoires. Cette ordonnance est publiée alors que la question oppose la Commission électorale nationale indépendante et les partis politiques en lice à la présidentielle, mais aussi au lendemain de la déclaration de Sélou d'Alain Diallo annonçant sa victoire à l'élection présidentielle du 18 octobre. Lundi soir, le gouvernement guinéen a dénoncé et qualifié les propos de l'opposant d'actes irresponsables, antidémocratiques et antirépublicains. Dans un communiqué rendu public, les autorités guinéennes menacent d'engager des poursuites judiciaires contre l'auteur de ce qu'elles qualifient de déclaration d'autoproclamation. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Nouvelle journée de manifestation au Nigeria. De violents incidents ont éclaté dans plusieurs villes et à Lagos, où un couvre-feu a été imposé. Et les forces anti-émeutes ont été déployées dans tout le pays. Le point avec Mouamadou Oumfa.
Lagos est totalement paralysé depuis hier. Ses principales routes ainsi que l'aéroport international ont été bloquées et les écoles fermées par les autorités la veille. Plusieurs barrages ont été érigés par des bandes de jeunes qui empêchaient les véhicules de passer. Un poste de police a été incendié dans la matinée selon plusieurs manifestants qui imputent la responsabilité de l'incendie à des casseurs. Plusieurs coups de feu ont été entendus. Les manifestations pacifiques ont dégénéré en un monstre qui menace le bien-être de notre société. J'impose un couvre-feu de 24 heures dans tout l'État à partir de 16 heures aujourd'hui, a déclaré le gouverneur de l'État de Lagos sur Twitter. Des échauffourées ont aussi éclaté dans la capitale fédérale Abuja, où la police a été déployée. Plusieurs maisons ont été incendiées, une épaisse fumée noire était visible au-dessus de la ville. Après une dizaine de jours de contestation dans le pays, au moins 18 personnes sont mortes, dont 2 policiers.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le groupe État islamique a revendiqué une attaque contre la prison de Kangbayi à Beni. Près de 1300 prisonniers se sont évadés. Le point avec Eddy Issango.
Deux prisonniers ont été tués par balle, d'après un tweet de la police nationale qui parle d'une attaque des ADF, des rebelles musulmans d'origine ougandaise. Sur 1300 détenus, un grand nombre s'est volatilisé dans la nature, précise la police. Les maires qui assurent l'intérim dans la ville de Beni, Modeste Mouindo Bwakanamaa, explique lui que seuls une centaine de détenus n'ont pas quitté la prison sur le 1455 qui s'y trouvait. Les quelques prisonniers restés ont témoigné aux correspondants de VOA Afrique sur place avoir été forcés de quitter sous menace de mort. De son côté, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque à travers son agence de presse Amaq. Les ADF sont accusés du massacre de plus d'un millier de civils dans la région du Béni depuis octobre 2014. Ils ont fait allégeance au groupe État islamique il y a quelques années. L'armée congolaise a déclaré en début de l'année avoir démantelé leur quartier général, mais cela ne les empêche pas de mener des incursions sporadiques par endroits.
Tension au sein de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo, où les présidents des deux chambres du Parlement ont annoncé qu'ils boycotteraient mercredi la cérémonie de prestation de serment de trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle nommés par le président Félix Tshisekedi. L'ex-président burundais Pierre Buyoya, actuel représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, a été condamné par contumace au Burundi à la prison à perpétuité pour l'assassinat en 1993 de Melchior Ndadaye, le premier président démocratiquement élu du Burundi. Son assassinat lors d'un coup d'État a enchaîné une guerre civile qui a fait près de 300 000 morts jusqu'en 2006. Dans la région du lac Tchad, 6 soldats tchadiens ont été tués et 12 blessés dans une embuscade des islamistes à Tchoukoumaria, un groupe d'îlots à la frontière entre le Tchad et le Nigeria. Les militaires ont tué une dizaine de terroristes, a déclaré le porte-parole de l'armée, Azem Bermendoa Aguna. Le Soudan espère un allègement de sa dette après l'annonce de son prochain retrait de la liste américaine des États soutenant le terrorisme et d'une levée des sanctions, a indiqué le Premier ministre Abdallah Hamdok. Lundi, Donald Trump a annoncé que les États-Unis s'apprêtaient à retirer le pays de la liste noire sur laquelle le Soudan figure depuis 1993. Covid-19. En Italie, la Lombardie et la région de Naples vont instaurer un couvre-feu de 23h à 5h, respectivement jeudi et vendredi pour 3 semaines. En Espagne, le gouvernement s'est dit prêt à discuter avec l'opposition de l'imposition d'un couvre-feu que pourrait solliciter Madrid, durement touchée par la pandémie. Et Manchester en Angleterre s'est vu imposer des restrictions drastiques à partir de vendredi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Deuxième demi-finale de la Coupe de la Confédération ce soir à Rabat au Maroc. Les Guinéens de Oruya en découdent avec les Égyptiens de Pyramide FC. Le vainqueur affrontera en finale la Renaissance sportive de Berkane qui a battu hier l'autre club marocain Hassania Agadir 2-1 à Casablanca. Mohamed Aziz a ouvert le score pour les Berkani à la 20e minute sur pénalty avant qu'Imad Kimawi n'égalise à la 30e. C'est finalement à la 60e encore sur pénalty qu'Imad Kimawi a donné un avantage définitif à Berkane qui se projette ainsi en finale. La finale aura lieu le 25 octobre prochain au stade de Rabat. L'Union des fédérations de football ouest-africaine zone B a effectué ce mardi le tirage au sort des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans et celle des moins de 20 ans, prévue l'an prochain. Pour ce qui est de la CAN des moins de 17 ans, le Bénin pays hôte se retrouve dans le groupe A avec le Togo, le Niger et le Burkina Faso. Le groupe B comprend le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ces éliminatoires auront lieu du 5 au 20 décembre donc au Bénin. Les finalistes se qualifieront pour Maroc 2021. Concernant la CAN des moins de 20 ans, le groupe A comprend le Togo, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana partagent le groupe B. Les éliminatoires de cette catégorie se tiendront au Togo du 18 novembre au 2 décembre et désigneront les qualifiés pour Mauritanie 2021. C'est fini entre Francis Kimanzi et le Kenya. Dans un communiqué, la Fédération kényane de football a annoncé le départ de son sélectionneur 48 heures après la réélection du président Nick Mwendawa. Francis Kimanzi a dirigé 10 matchs à la tête du Kenya avec à la clé 3 matchs nuls, 5 victoires et 2 défaites. Le Kenya fera face en novembre aux Comores en double confrontation dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021. Dans leurs deux précédents matchs, les RMB Stars ont fait match nul contre l'Égypte et le Togo et comptent donc 2 points. En Europe, la Ligue des champions reprend ce soir. Vice-champion d'Europe en titre, le PSG entame sa nouvelle campagne contre Manchester United. Dans le groupe E, Rennes reçoit Krasnodar.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, des violences sporadiques opposent certains partisans de l'opposition à ceux du pouvoir à Abidjan et à l'intérieur du pays, dans des villes comme Bongouanou, fief du candidat Pascal Affine Nguessan, et à Bonoua, ville de l'ancienne première dame Simone Gbagbo. L'opposition a lancé jeudi un mot d'ordre de boycott actif du processus électoral. Pour une analyse, Yacouba Ouédraogo a joint à Abidjan Alexis Tano, journaliste et analyste politique.
Depuis que la campagne a été lancée, les manifestations ont repris, les barrages qu'on érige sur les voies, les arbres qu'on coupe pour barrer des grandes voies qui sortent et qui rentrent d'Abidjan, des rues qui sont barrées, des véhicules qui sont incendiés, des véhicules de transport en commun. Il y a même des particuliers, tout ça, qui ont perdu des véhicules et des biens. La presse a largement relayé le fait aussi qu'il y ait des gens qui veulent s'interposer à la manifestation par des voies aussi violentes.
Quelles sont les villes qui sont touchées particulièrement?
Bon, on reste en quelque sorte le puissant de cette manifestation anti-troisième mandat. Mais en dehors de Bonoua, il y a la commune de Pougon à Abidjan. Ne reste pas en mal, il y a beaucoup de manifestations là-bas. Même ce matin, il y a eu des véhicules qui ont été cassés, des véhicules qui ont été incendiés. Dans le centre-ouest aussi, à Divo, et le week-end dernier, dans la région de Morono, la ville d'origine de l'ancien premier ministre Affine Nguessan, qui a connu aussi sa vague d'escalade de violence.
Est-ce qu'il y a déjà un début de dialogue entre le pouvoir et l'opposition menée par Henri Konan Bédié?
C'est difficile de dire qu'il y a un dialogue. Chaque fois qu'Affine Nguessan sort, Affine Nguessan dit nous voulons faire barrage pour obliger le pouvoir d'Abidjan à dialoguer et à trouver un consensus sur les différents points de revendication, notamment la reformulation de la commission électorale indépendante, il y a le conseil constitutionnel, il y a la libération des prisonniers, ceux qui sont en exil qui doivent rentrer, des gens qui ont été faits prisonniers à l'issue des récentes manifestations, et il y a le listing électoral que l'opposition demande à auditer. Donc, ils font cette manifestation, d'après ce qu'Affine Nguessan a l'habitude de dire, et l'opposition en général, pour qu'il y ait un consensus autour de ces différents points de revendication. Mais bon, en face, le président de la République, dans cette tournée, a déjà déclaré qu'il n'y a pas possibilité de revenir sur ces points, parce que selon lui, avant de prendre les différentes décisions dans le cadre du processus électoral, l'opposition et le pouvoir se sont entendus.
Il y a eu un temps cette mission conjointe de la CEDEAO et de l'Union africaine avec un communiqué final qui a été produit. Est-ce qu'il y a eu des avancées dans les négociations?
On ne peut pas dire qu'il y a eu d'avancées. Les positions sont restées les mêmes. Le communiqué demande aux partis d'aller au dialogue. C'est le dialogue qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui. Le communiqué ne fait pas mention de la présidentielle telle que demandée par l'opposition. Le communiqué ne fait pas cas du troisième mandat du président de la République qui est aujourd'hui, on peut considérer comme le véritable problème de cette crise.
Est-ce qu'il faut craindre que véritablement le mot d'ordre du boycott lancé par l'opposition soit suivi et que le 31 octobre, il n'y ait pas d'élection?
Il est difficile aujourd'hui de dire que ces oppositions pourront se tenir et qu'elles pourront se tenir de façon apaisée. Les récents de vote dans lesquels on devrait se rendre pour avoir possession de sa carte d'électeur ont été délocalisés dans les gendarmeries dans différentes localités. Donc vous comprenez très bien que ce n'est pas dans une brigade de gendarmerie que les élections vont se tenir. Il faut forcément la tenir dans un bureau de vote. Et c'est difficile aujourd'hui d'être sûr et de dire que les élections vont se tenir sans elle.
Alexis Tanou est journaliste et analyste politique. Il était joint à Abidjan. En République démocratique du Congo, le groupe État islamique a revendiqué une nouvelle attaque après un moment d'accalmie. Ce mardi, la prison de Kangbayi a été attaquée, provoquant l'évasion de près de 1300 détenus. Eddy Issango a joint à Goma, l'auteur de plusieurs ouvrages sur le groupe État islamique en RDC, Nikes Kibel Beloka, éditeur du quotidien Les Coulisses à Beni.
Oui, ce matin, un groupe d'assaillants a attaqué la prison de Tambaï à Beni. Il a libéré tous les détenus. Ils étaient au nombre de 1447. Il en était resté 110, dont 68 militaires. Mais à l'heure où nous parlons, l'auditorat a récupéré presque 160 détenus. Les faits se sont passés le matin, aux petites heures du matin. Selon des sources recoupées, un groupe est venu. Il a défoncé la prison et a fait libérer tous les prisonniers, parmi lesquels les ADEF.
L'État islamique a revendiqué cette attaque, mais il y avait quand même un peu d'incertitude au début. Qu'est-ce qui prouve que c'est bien les groupes État islamique?
Oui, il est vrai que l'État islamique a revendiqué. Ce qui peut prouver, ce qui peut accréditer cela, c'est que d'abord il y avait beaucoup de leurs combattants, dont des ADEF, dans la prison, mais aussi depuis 2017-2018, la RDC, notamment les ADEF, font partie de ce qu'on appelle la province Afrique centrale de l'État islamique, avec le Mozambique et depuis le 1er octobre, la Tanzanie.
L'armée congolaise a montré des images sur le terrain disant qu'elle avait démantelé le quartier général du groupe État islamique en RDC. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui la persistance d'attaques et même en fait, les changements, ce qui semble apparaître comme un changement des tactiques?
Nous sommes dans une guerre asymétrique où l'ennemi évite le corps à corps, l'ennemi évite l'affrontement direct avec la force loyaliste. L'ennemi est très mobile, il opère en petits groupes, il a développé son système de renseignement au point qu'il connaît presque toutes les positions des FRDC et les évite. Ce qui montre effectivement, ce qui donne toutes ces attaques surprises contre l'armée et surtout contre la population. Parce que l'enjeu vital, c'est la population. Et dans ce genre de guerre, celui qui est en avance sur les renseignements, c'est celui qui gagne. Donc les FRDC font leur travail, mais l'ennemi qui utilise les compartiments, qui utilise les cloisonnements, contourne les positions de l'armée loyaliste.
Notre confrère Nikes Kidabeloka était joint à Beni, dans le nord-est de la RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Les chefs traditionnels des régions anglophones du Cameroun créent des milices armées pour se protéger contre les séparatistes. Le gouvernement a demandé à ceux d'entre eux qui ont fui le conflit de retourner dans leur localité pour participer aux élections régionales de décembre. Mais la majorité des chefs déplacés hésitent à cause des menaces des rebelles. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé. Le récit est de Lionel Gaïma.
Les membres de l'ethnie Sow de la région du nord-ouest du Cameroun applaudissent. Ils sont venus dans la ville de Koumbo écouter un appel de leurs aînés et des notables à réserver un accueil mémorable à leur chef traditionnel, Sem Binglo, à son retour. Binglo a fui la région il y a 3 ans. Des séparatistes l'avaient enlevé à 3 reprises et tué 2 de ses enfants. Parmi le millier de personnes venues écouter les notables, Dorothy Yekong dit avoir très envie de revoir son fond, son dirigeant traditionnel.
Quand les artisans de la paix ont dit que le fond reviendrait, nous avons juste ressenti un peu de paix à Koumbo, parce que quand nous étions là-bas, sans le fond, c'était comme un enfant entouré de lions. Donc, s'il vient enfin, nous sommes sûrs que la paix reviendra à Koumbo. Il est le père de tout le monde à Koumbo.
Dorothy Yekong implore les séparatistes de ne pas attaquer ces notables qui ne sont là que pour promouvoir la culture et les traditions africaines. Mais peu après, les anciens ont appelé à bien accueillir leurs chefs de village. Des groupes séparatistes sur les réseaux sociaux ont mis en garde contre le retour de ces chefs traditionnels. Donatus Kewa se présente comme le porte-parole des combattants séparatistes dans la région du Nord-Ouest. Il affirme que les chefs traditionnels sont des informateurs de l'armée.
Mais Les chefs de village et les notables qui ont fui vers les zones francophones, en particulier vers Yaoundé, seront tués s'ils reviennent. Pour s'échapper, ils ont reçu de l'aide de l'armée camerounaise, qui est l'ennemi que tous les anglophones doivent combattre.
John Ewome Eko, chef traditionnel de Boassa, un village du sud-ouest, se dit prêt à affronter les séparatistes. Il dit avoir armé une milice pour protéger son palais, ses notables et les objets d'art traditionnels.
J'ai mis en place un groupe de vigiles avec plus de 100 jeunes prêts à affronter les gardes en bas. Ils sont venus et ont incendié des parties de mon palais. Ils ont saisi des biens de mes villageois. Ils sont partis avec deux filles qui sont restées avec eux dans les buissons pendant 2 semaines. Elles ont été violées et torturées. Elles sont revenues avec des blessures sur leur corps.
Deben Tchofo, gouverneur de la région du Nord-Ouest, a déclaré que les milices créées par les chefs devraient collaborer avec les troupes gouvernementales. Il ajoute que personne ne devrait craindre des séparatistes qui, selon lui, ne font qu'intimider les chefs traditionnels et les civils.
Les dirigeants traditionnels sont engagés, les conseillers municipaux sont engagés, l'élection Kaboud est prête. Les services de sécurité sécurisent la région pour nous permettre de venir le 6 décembre organiser ces élections dans un environnement paisible.
Le gouverneur a déclaré qu'il donne aux combattants une autre occasion de déposer les armes et d'être graciés ou d'être écrasés par l'armée. Cette crise séparatiste, qui en est à sa 4e année, a fait, selon les Nations Unies, au moins 3000 morts et 550 000 déplacés.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. À très bientôt et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 18 août, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé par un coup d'État militaire largement condamné. Les États-Unis ont immédiatement cessé leur assistance sécuritaire au gouvernement malien. Le bloc économique ouest-africain, la CEDEAO, a suspendu le Mali de ses institutions et imposé des sanctions en attendant la formation d'un gouvernement civil de transition. En fin septembre, Ba Ndao, un colonel à la retraite, a été désigné président du Mali. Le colonel Assimi Goïta, chef de la junte ayant mené le coup d'État, a été installé comme vice-président de la transition. Le diplomate et ancien ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Wane, a été nommé premier ministre de la transition. Ils sont chargés de diriger une transition civile de 18 mois et qui aboutira à des élections. Le 5 octobre, le président de la transition, Ba Ndao, a formé un gouvernement complet. La CEDEAO a alors levé ses sanctions. Les États-Unis perçoivent la mise en place de ce gouvernement de transition comme l'étape initiale vers un retour à l'ordre constitutionnel. Le porte-parole du département d'État, Morgan Ortegas, a dit « Nous exhortons le gouvernement de transition à honorer ses engagements envers la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment en organisant des élections démocratiques dans les 18 mois. Il sera également important que le gouvernement de transition tienne ses promesses envers le peuple malien de renforcer la gouvernance, de lutter contre la corruption, de réformer les processus électoraux et de mettre en œuvre l'accord de 2015 pour la paix et la réconciliation au Mali. L'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Kelly Craft, a souligné que les États-Unis n'accepteront pas le contrôle militaire des autorités civiles, les retards dans les élections ou les élections qui ne sont pas crédibles. Les élections doivent également inclure la participation pleine, effective et significative des femmes, des personnes déplacées et des réfugiés, des jeunes et des groupes nordistes marginalisés. Les États-Unis soutiennent le peuple malien et ont alloué 54 millions de dollars en nouvelle aide humanitaire au Mali. Le porte-parole Ortegas a déclaré «
Nous croyons fermement qu'un Mali démocratique, prospère et sûr est essentiel pour l'avenir de la région du Sahel. En tant que partenaire du Mali depuis plus de 60 ans, les États-Unis travailleront avec tous ceux qui sont attachés à ces objectifs. Le moment est venu pour les Maliens de se rassembler pour construire un avenir meilleur et plus brillant pour tous.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.